crois que vous avez très bien posé le problème. C'est-à-dire qu'on sait que la grande majorité de cette dette est illégitime et sans doute, voire la totalité. Le problème qu'on s'est posé quand on a lancé cette initiative, c'est de savoir quelle est la meilleure façon pour associer le maximum d'organisations syndicales, associatives, voire politiques, pour que ça fasse la plus grande tâche d'huile. Et on sait très bien que la réponse sera, bon, ben, il faut annuler cette dette-là ou décider un moratoire immédiat pour qu'on puisse mettre les choses à plat. Bon, mais il nous a paru, alors est-ce que c'est une erreur de stratégie ou pas, c'est l'avenir qui le dira, il nous a paru important de ne pas laisser croire qu'on avait déjà la réponse avant de la proposer au débat public. Bon, c'est bon. Vous voulez faire plusieurs personnes parler de pédagogie, donc ça, c'est effectivement une approche qui se veut, même si ça réussira, mais qui se veut pédagogique. Deuxième question, mais qui est liée à celle-ci. Bon, l'exemple de l'Argentine, mais oui, ils ont refusé de payer. Bon, refusé de payer, bon, ben basta. Et donc, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau de cette manière-là. Et eux aussi avaient connu une débâcle sociale, économique importante avec une fuite des gens qui avaient du pognon avant que les décisions draconiennes soient prises. Troisième question. Les allègements de cotisations sociales pour les entreprises sont connus. C'est presque 30 milliards maintenant par an, 30 milliards d'euros, dont 27 ou 28 sont compensés par le budget de l'État, mais c'est autant de moins pour le budget de l'État. Et donc c'est autant de plus pour le déficit. S'il n'y avait pas ces allègements, il y aurait 27 milliards de déficit de moins dans le budget de l'État. Bon. Ensuite, est-ce que les monnaies locales? Bon, alors il faudrait une soirée entière là-dessus. Bon, donc une phrase là aussi sur ce problème-là, cette question-là, c'est un problème, hein, c'est qu'effectivement, comme parmi les dimensions de la crise, d'une violence inédite, il y a la destruction progressive du tissu social, il y a maintenant pas mal d'expériences ayant créé des monnaies associatives, des monnaies locales ou monnaies solidaires, il y a plusieurs noms qui sont synonymes, hein, de ces initiatives-là, et qui ont pour but de retisser sur le plan local ou régional quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré en termes d'échanges économiques, mais aussi de relations humaines. Et d'ailleurs, ça permet de se rappeler, parce qu'on l'a trop oublié, vu comment est fait l'enseignement de l'économie à l'université, de se rappeler qu'une monnaie, ce n'est pas simplement un outil d'échange marchand, c'est aussi une institution sociale. La monnaie est une institution sociale, et d'ailleurs sans laquelle vous n'auriez pas d'échange privé. Mais en plus, la monnaie est une institution qui sert à socialiser une partie de la richesse. Quand vous allez au personnel hôpital, vous ne rémunérez pas en nature le chirurgien. Il est rémunéré par le fait qu'il y a une socialisation via les cotisations, l'assurance sociale, via l'impôt dans certains pays, d'une partie de la richesse. Donc la monnaie ne sert pas que à l'enrichissement privé, elle sert aussi à la socialisation de la richesse. Et ça, on peut le retrouver à l'échelle micro-régionale ou locale dans les monnaies de ce type. Mais alors, à l'inverse, il ne faut pas en déduire qu'une addition de monnaie locale sont la solution à la crise. Hein, c'est qu'il faut, en même temps qu'il y a ce type d'initiatives qui sont tout à fait intéressantes à observer et pour y participer, mais il faut en même temps remettre en cause les logiques globales qui gouvernent donc la politique monétaire à l'échelon global. Et donc ça m'amène à une question qui est presque liée. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à modifier les institutions de l'Europe? Oui, d'ailleurs, c'est ça aussi un des paradoxes qu'on avait prévu. En 2005, quand on s'est battu contre le TCE, parmi nos arguments, il y avait celui-ci, vouloir inscrire dans le marbre, on avait cette expression, dans le marbre de la Constitution, un ensemble de règles de politique économique est suicidaire. Et donc, on ne nous a bien sûr pas écoutés, puisqu'on nous a refourgué le traité de Lisbonne une fois qu'on avait refusé le précédent. Et maintenant, ce sont les gouvernements qui se heurtent à la difficulté qu'ils ont créée. Ils nous avaient assuré de toute façon que ces traités européens avaient une vocation à durer sur un demi-siècle ou un siècle, au bout de 3 ans, 4 ans, il faut les foutre en l'air. Et ils s'assoient eux-mêmes dessus. Et cette violation de leurs propres traités est permanente. Le pacte de stabilité dont je vous ai parlé, qui a été créé en 97-98, je ne vous ai pas dit tout à l'heure parce que je voyais le temps s'écouler, mais là, c'est l'Allemagne et la France qui les ont violés, qui l'ont violé les premiers.
La règle des 3%.
Voilà, la règle des 3%, ils ne l'ont pas respectée. Et ils ont refusé qu'on leur applique les sanctions financières qu'ils avaient eux-mêmes prévues.
Ils les avaient prévues pour les autres.
Voilà, c'est ça. Bon, alors voilà. Bon, je suis bien conscient que je ne réussis pas à répondre à toutes les questions que vous poseriez. Et j'ai bien conscience aussi que bon, toutes ces questions sont extrêmement pas compliquées dans leur principe. Et plus on avance dans le détail, plus on voit de choses se croiser, s'interconnecter. Et c'est ça qui effarouche un peu, qui fait peur, parce que ça a l'air de dépasser nos propres moyens. En fait, ça dépasse, oui, ça dépasse nos moyens individuels, en tout cas, mais ça ne dépasse pas la capacité de compréhension des sociétés. Et je pense que on ne mettra fin à cette crise que par une irruption populaire, une irruption, j'allais dire une insurrection, mais au sens premier du terme, oui, une irruption de la citoyenneté pour que des choix conformes à des aspirations autres que financières puissent s'imposer.